Bonjour à tous, heureux de vous accueillir dans cette émission qui empêche de polluer, de réchauffer, de penser en rond, avec Serge Viguier et Guillaume Lacroux aujourd'hui à la technique, et assisté de Claire-Sophie Collet, de Jean-Christophe Pinaza, c'est Caroline Le Bossé qui réalise cette émission. Une petite humeur, avec pour commencer une question qui nous vient de l'Université de Columbia, aux États-Unis et relayée par le journal donc Le Monde. Pourquoi n'avons-nous pas un cerveau vert ? Traduction, comment se fait-il qu'avec cette petite merveille de l'évolution que nous avons entre les oreilles, nous traînons encore les pieds face au changement climatique ? Et nous continuons de prendre, bien sûr, le monospace pour aller chercher le pain. Eh oui, youpi. Et pourtant, quoi qu'en disent les marchands de pétrole, les dégraisseurs de mammouths et autres sceptiques, l'atmosphère de notre petite planète présente bel et bien un taux un peu anormalement élevé quand même de gaz à effet de serre, de CO2, etc. Une substance, on le sait, un peu impliquée dans la fonte des banquises, les canicules, les tempêtes, les ouragans, l'élévation du niveau des océans, j'en passe et des meilleurs. Il y a fort à parier que nous avons une certaine responsabilité dans cette affaire, parce qu'avec nos grosses voitures, nos avions et nos fraises et nos pots de yaourt qui font des milliers de kilomètres avant d'atterrir dans nos assiettes, ne me dites pas que nous n'y sommes pas pour quelque chose. Et non. Alors, conclusion des spécialistes en recherche comportementale de cette université de Columbia, Homo economicus n'est pas le petit prodige de rationalité que l'on croit, celui qui fait le meilleur des choix possibles dans le meilleur des mondes. Et non, l'homme moderne, voyez-vous, c'est aussi avant tout un animal qui vit en société, qui écoute la radio sur le net et discute avec ses collègues de boulot. Bref, un individu sensible à l'opinion de son voisin. La preuve, 50% d'entre nous risquons même d'aller voter aux élections européennes. Eh oui. Un exemple, tenez aussi. La base aérienne d'Avord, qui se trouve dans le Cher, c'est 160 hectares de terrain militaire tiré au cordeau à coups de désherbants chimiques. Alors, l'objectif, vous me direz, de la Grande Meute, ce n'est pas d'avoir forcément la main verte. Eh bien, détrompez-vous, parce que sur cette base d'Avord, c'en est bientôt fini des bidons de désherbant. Désormais, c'est une escouade de lamas et de chevaux qui se régalent de la corvée de mauvaises herbes. Une initiative, on espère, qui pourra faire boule de neige même au mois de mai. À commencer, si possible, par les sociétés d'autoroutes, la SNCF, etc., qui sont grandes consommatrices de désherbants sur les talus. Et pour ceux d'entre nous, chers amis auditeurs, qui n'auraient pas la possibilité d'accueillir chez vous une chèvre ou un lama, on ne sait jamais, reste mardi prochain la fête des voisins. Le voisin, vous savez, c'est celui que l'on croit au parking, au jardin, entre deux ascenseurs, ce grand oublié des soirées télé, des Facebook et des autres, celui-là à qui on emprunte un sécateur ou un morceau de beurre, avec qui on parle métro, boulot, météo, ou bien, qui sait, de notre jardin bio. Alors, que nous ayons un cerveau vert ou pas, une chose est sûre, pour lutter contre le changement climatique, entre autres sur notre petite planète, eh ben, nous aurons bientôt besoin d'un coup de main du voisin, si, si. Et des voisins, eh bien nous en avons à peu près 500 millions, ça s'appelle l'Europe, nous en faisons partie. Pour parler de cette Europe environnementale, eh bien avec beaucoup de plaisir, on reçoit aujourd'hui Gérard Onesta, qui est vice-président vert du Parlement européen, qui est député européen jusqu'au 13 juillet, donc qui a été élu pour la première fois en 1989, et donc qui ne se représente pas lors de cette campagne, c'est pour ça que nous pouvons l'accueillir. Gérard Onesta, bonjour à vous.
Bonjour.
Alors vous êtes chez nous, enfin chez vous, vous êtes du côté du MOUV, hein, pas très loin d'Albi, votre ville, à Toulouse, donc on remercie nos camarades techniciens qui vous accueillent ici au MOUV. Être au cœur de la décision législative, comme le disent les Anglais, c'est un full-time job. Autrement dit, c'est 100% de présence. Et ça, faut le rappeler, parce qu'on a une image malheureusement un peu négative de ce Parlement. En tout cas, c'est l'image qu'en donnent parfois certains politiciens français, mais pas tous. Comment on peut donner envie, effectivement, de cette Europe ? Parce que vous bossez beaucoup les uns et les autres.
Hein. En matière d'environnement, si l'Europe n'existait pas, on annule d'un trait de plume pas moins de 80% de la législation qui protège l'environnement, dont notre santé et celle de nos descendants.
Oui.
S'il n'y a pas d'Europe, on peut parier qu'il n'y aurait plus d'oiseaux migrateurs dans le ciel, que les ressources halieutiques seraient gérées de manière encore plus anarchique, et c'est déjà pas triste, qu'il n'y aurait pas de zone de protection, vous savez le fameux Natura 2000 qui quand même protège 17% du territoire européen, c'est à peu près la surface de l'Allemagne, c'est quand même pas rien. Mm-hmm. On aurait des taux de pesticides et de nitrates qui ne seraient pas plafonnés. siphonner des OGM dans nos assiettes. Les accords de Kyoto sur le climat n'auraient jamais été lancés. On aurait toujours les 100 000 substances dangereuses qui nous entourent, qui ne seraient pas sous contrôle, etc. etc., etc. Supprimer l'Europe, vous supprimez quasiment la totalité de la politique environnementale.
Alors Gérard Onesta, dans cette Europe aussi, on pratique le compromis. On ne connaît pas forcément très bien cela en France, mais c'est un travail de démocratie, une école de démocratie assez permanente. C'est-à-dire qu'on ne, personne ne peut imposer, on va dire, l'intégralité de ses vues.
Vous savez, dans ce Parlement européen, quand je préside, j'ai en face de moi des représentants de 120 partis politiques qui viennent de 27 pays, qui parlent 23 langues. Tout ça est écrit en trois alphabets. Personne n'a, lui, tout seul, tous les morceaux de la vraie croix. Si on arrive au Parlement européen en étant persuadé qu'on va dicter sa petite loi, on est totalement inaudible, donc inefficace. Donc pour construire des rapports de force, pour faire plier la Commission européenne, pour amener le Conseil, là où siègent les gouvernements, c'est-à-dire le Sénat des intérêts nationaux, pour parler simple, eh bien, il faut parfois mettre un petit peu d'eau, non pas dans sa conviction, mais dans la façon dont le présenter. 80% des textes sont votés en commun, des communistes jusqu'aux libéraux. Par contre, sur les 20% restants, c'est très saignant. C'est un Parlement très, très, très vivant. Mais pour atteindre les majorités qualifiées, il faut savoir reconnaître dans l'autre une partie de la vérité. C'est une merveilleuse école de vie, une merveilleuse école d'ouverture d'esprit.
Alors Gérard Onesta, on reviendra bien sûr sur ce lieu où se joue, on l'a compris, une très grande partie de notre avenir, c'est-à-dire Strasbourg et Bruxelles entre autres. Et puis, je ne vais pas vous présenter un homme que vous connaissez, hein, qui est Jean-Marie Pelt. Hein, vous le...
Oh oui.
Vous le connaissez bien. Et vous allez voir, il va nous faire un rapport tout à fait intéressant là tout de suite. Jean-Marie Pelt, bonjour.
Bonjour Denis, bonjour à tous.
Alors dans cet ouvrage qui s'appelle La raison du plus faible, vous faites une comparaison tout à fait intéressante entre Napoléon et Robert Schuman, le père de l'Europe. Racontez-nous.
Bah écoutez, quand on additionne ces deux mots, on a un immense héros de l'histoire nationale. Oui. On a Napoléon aux Invalides, on a Napoléon sur l'Arc de Triomphe, toutes les avenues, Friedland, oui. Iéna, la Grande Armée, enfin, Napoléon partout. C'est un héros. Oh, alors à côté de ça, il y a le petit Robert Schuman, que personne ne connaît, qui est passé totalement insignifiant, parce qu'il avait un profil insignifiant. Les journalistes ont dit de lui qu'il avait l'allure d'un notaire de province ou d'un jeune communion monté en graines, un homme qui serait né vieux. Bon, il n'était pas très orateur, il vivait avec une vieille gouvernante, il était célibataire, il prenait le bus quand il était président du Conseil pour détourner ou déjouer la police qui le suivait, ce qu'il ne supportait pas. Alors, comment un homme d'aussi piètre allure pouvait-il donc devenir un homme d'État ? Quand il a été nommé président du Conseil en novembre 1947, voilà Tipak le malheureux tombe sur une situation absolument dramatique. Moscou veut mettre la main sur la France, comme il l'avait fait sur toutes les démocraties de l'Europe de l'Est, qui était tombée les unes après les autres, la Hongrie, la Bulgarie, la Tchécoslovaquie, toute la Pologne, tout était tombé. Et on prévoyait, grâce à un parti communiste très puissant, plus de 25% des voix en France, de faire tomber la France, donc toute l'Europe occidentale serait tombée dans le giron soviétique. Schuman a résisté. Bon, alors il a résisté dans des conditions extraordinaires. Le Parlement a siégé 6 jours d'affilée, nuit et jour. Il y a 250 pages au journal officiel où il se fait horriblement insulter.
On a le catalogue des injures les plus violentes.
D'une violence incroyable. On le traite de salaud, de boche, de pourri, de vendu. C'est épouvantable. Il tient. Alors maintenant, Napoléon. Napoléon voudrait bien que le tsar rentre dans son jeu pour faire quelques misères aux Anglais, puisque c'est notre ennemi héréditaire. Et comme le tsar n'a pas l'air de vouloir suivre Napoléon, il considère Napoléon que le tsar n'est pas dans le bon camp. Donc on va piler le tsar. Campagne de Russie, désastre absolu, 600 000 morts au retour, oui. La Bérézina,
une paille, quoi.
C'est la Bérézina, et l'armée, la grande armée revient en loc. Bon, qui est le fort, qui est le faible? Alors on continue. Alors il est président du Conseil.
Donc on revient avec Robert Schuman.
Oui, en 1950, il cherche comment réconcilier la France et l'Allemagne. Et il pense que ça ne peut se faire qu'en une entité plus large qui serait l'Europe. Il reçoit de Jean Monnet un projet, il passe son week-end à étudier le projet, et il dit « on y va ». Au bout de 9 jours, il emmène l'affaire avec l'Italie, l'Allemagne d'Adenauer, la Belgique, la Hollande, le Luxembourg et nous, et la Communauté européenne du charbon et de l'acier est mise en place par un discours qui a lieu le 9 mai 50. C'est pourquoi le 9 mai 50 est la date de la fête de l'Europe, ce que personne ne sait, c'est le jour où l'Europe a été fondée. Maintenant Napoléon, il veut faire l'Europe aussi. Alors, il fait des campagnes de tous les côtés, il aligne des morts en quantité, et il réussit à faire une France qui a 130 départements, avec au nord le département des Bouches de l'Elbe, dont Hambourg est le chef-lieu, et au sud le département du Tibre, dont Rome est le chef-lieu. Après la retraite de Russie, tout est perdu, toute la rive gauche du Rhin est perdue, la France redevient l'hexagone qu'elle n'était plus depuis la Révolution, puisque la Révolution avait amené les frontières de la France jusqu'au Rhin. Ce que je trouve extraordinaire dans cette histoire, c'est que l'Europe de Napoléon, c'était un morceau d'Allemagne, un morceau d'Italie, les Pays-Bas, qui comprennent à l'époque la Belgique, et le Luxembourg. C'était les mêmes pays avec lesquels Schuman a fait la première Europe. Et lui avait les mêmes pays, et il a tout raté. On n'a pas réussi à faire l'ombre d'une Europe qui est le fort, qui est le faible. Continuons. Il est ministre de la Justice. Il a la première femme ministre dans l'histoire de la République, Madame Poinceau-Chapuis. Bon, c'est étonnant pour un célibataire. À l'inverse, Napoléon fait le code civil très défavorable aux femmes, beaucoup plus défavorable aux femmes que ce qu'avait cogité la Révolution française. Continuons, il est ministre de la Justice. Il se défend pour l'indépendance de la justice parce qu'il est juriste. Napoléon restaure l'esclavage dans les Antilles. Bon, alors vous avez bien compris que je ne veux pas démolir Napoléon, hein. Bah, ce n'est pas le but de l'opération. Mais ce qui est tout à fait intéressant, c'est que Schuman n'existe pas dans la mémoire française. Quand on demande la rue Schuman à Paris, les taxis ne savent pas où c'est.
Mais comme cet homme était modeste de toute façon, bon, ça ne va pas le perturber.
Non,
ça, mais...
parce qu'il n'avait pas de plan de carrière.
Oui. Alors, moi qui vous connais un petit peu et qui connais votre filiation donc avec Robert Schuman, je comprends mieux, effectivement, encore mieux maintenant pourquoi vous aimez cet homme. Parce que vous non plus, vous n'avez pas exactement un plan de carrière, donc c'est ça qui est bien.
Pas vraiment.
Mais pourtant, ça marche. Oui. Merci Jean-Marie. Merci pour cette histoire, donc dans La raison du plus faible, édité chez Fayard. Et puis à la semaine prochaine. Au revoir Jean-Marie.
Au revoir Denis, au revoir à tous.
L'Europe ne se fera pas d'un coup. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait.
CO2 en amour, Denis Chessou.
I'm on my hands and knees, searching every corner for my lost heart and soul. Now hear me begging, please. I'm searching every corner for my lost heart and soul. Now give me that slow, knowing smile, like someone who may know their way. Give me that slow, knowing smile. That may make me wanna say, hey, 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 give me that slow knowing smile. Give it to me slowly. Give me that slow knowing smile. Give it to me in every corner for what I know is mine. I tell you what is true, my
my heart and my soul is what I need to find. Now give me that slow knowing smile, like someone who knows where to go. Give me that slow knowing smile that may make me wanna say,
très agréable ça, Lisa Ekdahl, chanteuse suédoise. Et nous irons en Suède tout à l'heure, comme nous irons aussi en Espagne, en Allemagne, en Angleterre, au Luxembourg au cours de cette émission. Et puis à Toulouse où nous attend donc Gérard Onesta, je rappelle, vice-président du Parlement européen donc aujourd'hui. J'ai un peu envie de me faire l'avocat du diable. Dans cette Europe donc, qui est libérale, on va dire pour qui le marché ne ment pas, donc qui fait la chasse aux services publics, qui fausse la concurrence, comment on prend en compte effectivement cet environnement qui a toujours été, et cette écologie qui ont toujours été entre guillemets externalisés et qui étaient des espèces de variables d'ajustement aujourd'hui?
Bien parce que peut-être c'est le bon endroit pour parler d'environnement. Vous savez, l'environnement, c'est par définition une politique globale et transfrontière. Les poissons ne savent pas qu'ils quittent les eaux territoriales. Une tempête n'a jamais été arrêtée par un douanier. Il n'y a qu'en France où un nuage nucléaire s'arrête à nos frontières. Donc par définition, c'est le bon niveau d'intervention pour parler d'environnement. Et dans la mandature qui s'achève, la plupart des textes votés au Parlement européen, qui une fois de plus s'imposent au niveau national. Les deux tiers de textes votés à l'Assemblée nationale, en France, à Paris, ne sont plus que la simple déclinaison de ce que j'ai déjà voté avec mes collègues à Strasbourg. Eh bien, l'essentiel des textes que nous venons de voter dans la mandature qui s'achève, que ce soit au niveau agricole, au niveau énergie, au niveau transport, ont une large dimension environnementale.
Alors ce que je vous propose, c'est de commencer notre petit tour d'Europe et on va partir d'abord au Royaume-Uni. On va le rappeler, hein, 253 000 km², 61 millions d'habitants. On comprend pourquoi les Anglais trouvent qu'il y a pas mal de place chez nous. On va vous rejoindre Jacques Monin. Et on sait que les Anglais sont des grands amis des animaux, certes, mais l'environnement et l'écologie, est-ce que ça concerne vraiment beaucoup les Anglais aujourd'hui?
Oui, c'est un pays paradoxal en fait, parce que à la fois, tout le monde vous parlera d'environnement ici, le réchauffement climatique est une préoccupation majeure, y compris portée d'ailleurs au sommet de l'État. Gordon Brown n'avait jusqu'à la crise financière, hein, que Smola à la bouche. Mm-hmm. Mais en même temps, c'est un pays aussi qui vit encore sur des centrales à charbon obsolètes. On voit des 4x4 partout dans Londres. Vous savez que l'ancien maire Ken Livingstone avait projeté de les taxer très fortement.
Oui, c'est vrai, oui.
Et puis le nouveau maire, Boris Johnson, y a renoncé. Donc là aussi, il y a un petit paradoxe quand même. C'est un pays qui à la fois veut investir énormément dans les énergies renouvelables, dans tout ce qui permet de produire moins d'émissions de carbone. Mais en attendant, on vient de donner l'autorisation de la construction d'une troisième piste à Heathrow, qui est quand même le plus gros aéroport d'Europe, tout en expliquant que ce n'est pas grave dans la mesure où les avions de demain pollueront moins que les avions d'aujourd'hui. Oui. Donc même si on en rajoute, on ne polluera pas plus.
C'est ça. Enfin, donc c'est comme une espèce de fuite en avant que l'on connaît aussi dans d'autres pays, à commencer effectivement par la France. Et en même temps, on sent qu'on a une véritable envie. Et puis quand même, les vieux réflexes sont là, quoi.
Il y a un principe de réalité. Vous savez, moi, je l'ai constaté vraiment sur le terrain il n'y a pas très longtemps. Je suis allé à Hartlepool, dans le Grand Nord, là, juste en dessous de l'Écosse, oui. Nord-est de l'Angleterre, pour l'arrivée du Clémenceau, qui va se faire démanteler donc à Hartlepool, sur un chantier. Et quelques temps, enfin, et même pendant plusieurs mois, il y a une association qui a mené un combat contre l'arrivée du Clémenceau, en disant que c'était un navire amianté, un navire poubelle, un navire toxique, c'était le mot. Et quand je suis allé à Hartlepool, c'était après la crise financière, c'était au moment où le chômage était à nouveau en train de revenir à la une de l'actualité. Vous savez qu'on a dépassé les 2 millions de chômeurs maintenant ici. Ouais. Et ben, le discours que j'ai entendu sur place, c'était c'est bon pour l'emploi. Oui. Et l'écologie, on n'en parlait plus, on s'en fichait. L'essentiel, c'était qu'effectivement, ben, au moins, on maintiendrait notre emploi. Donc c'est vrai qu'il y a ce double discours. Il y a à la fois une volonté forte hein, ici qui se traduit par ce fameux budget carbone qui est là aussi, on s'est communiqué autour de ça, une première mondiale. Donc il fixe des objectifs extrêmement ambitieux, réduction de 34% des émissions de CO2 d'ici 2020. Bon, ça ne mange pas de pain hein, quand on voit 2020, il peut se passer, il peut couler de l'eau sous les ponts. Enfin bon, quand même, il y a quand même des actes qui sont des actes très forts avec volonté d'investir beaucoup, mais des choses en même temps. Récemment, ici, on nous a annoncé une ristourne sur les voitures électriques, oui. Sauf qu'il y a déjà des voitures électriques qu'on peut commander, mais ça ne marche pas pour ces voitures-là, ça marchera pour celles de demain, à partir dans 2 ans. Quoi. Donc voilà, on est toujours dans cette espèce de... C'est pas un double discours, je crois qu'il y a vraiment c'est un pays qui est très préoccupé par l'environnement, c'est un pays qui développe également la culture du bio, on mange beaucoup bio, on achète beaucoup bio, beaucoup de magasins de bio, donc on a cette sensibilité-là. Mais c'est vrai qu'après, quand il faut passer aux actes, et quand il faut passer aux actes concrets, il y a toujours cette espèce de contradiction entre la nécessité de préserver l'économie, surtout dans un contexte difficile et de plus en plus difficile, et en même temps de continuer à investir dans les éoliennes, dans les villes non polluantes, dans les maisons non polluantes.
Oui, parce qu'on a quand même aussi un projet quand même assez ambitieux d'une méga ferme éolienne et des écovilles aussi.
Oui, alors ça, ça remonte déjà il y a quelques années, même si c'est pas terminé, loin de là. Il y a effectivement cette idée d'une ferme qui serait la plus grosse du monde. Enfin, pour vous donner quelques chiffres, 341 turbines, vous imaginez, sur 230 km. Donc vous voyez un peu le paysage que ça représente.
On imagine les riverains tout de suite, là, effectivement.
Oui. Alors oui, il y a aussi ça. Mais ça, c'est comme partout. On va mettre une décharge quelque part. Forcément, on n'a pas envie de l'avoir à côté de chez soi. Hein. Mais là aussi, à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Alors là, l'objectif est aussi très ambitieux. Il est de couvrir 20% des besoins énergétiques à l'horizon 2020 par de l'énergie éolienne. Donc on est quand même loin du compte, même avec les 341 turbines. Il faudrait en fait, pour atteindre cet objectif, en construire 7000. Donc ça voudrait dire une tous les 800 mètres. Vous imaginez, on mettrait une éolienne pratiquement ceinturant la Grande-Bretagne tout autour du pays. Donc ça paraît un petit peu irréaliste. Mais sinon, si, effectivement, cette ferme, elle va se faire. Elle va se faire. Maintenant, là aussi, il y a cette forte ambition, il y a les chiffres. Quand on regarde sur le papier, on se rend compte que les énergies renouvelables en Grande-Bretagne, c'est 4,5% de la production, c'est 6% en France, c'est 4,5% en Allemagne. Donc on est quand même encore loin du compte.
Merci à vous, Jacques Monin, donc depuis les Royaumes-Unis et depuis Toulouse. Donc Gérard Onesta, peut-être petite réaction.
Oui, c'est vrai qu'entre les discours et les actes, il y a encore un grand gap, comme disaient les Anglais, un grand fossé à franchir. Dans tous les discours européens, on parle effectivement des grands objectifs pour préserver le climat, porter les énergies renouvelables à 20% d'ici 2020, réduire les gaz à effet de serre de 20%, l'énergie dépensée de 20%. Mais le bilan à la fin de la présidence française, si les objectifs étaient parfaits, la façon de les atteindre sonne un petit peu creux. Je vous donne les deux exemples. Pour les voitures, les lobbyistes ont tellement bien travaillé que le mécanisme qu'on leur demande, c'est de garantir 162 grammes en 2012 au kilomètre, alors qu'actuellement, c'est déjà 158. Donc on leur dit, vous pouvez être encore plus laxiste. Quant aux industries qui vont devoir acheter des permis à polluer, on sait déjà que 96% d'entre elles en seront exemptées. Donc la directive porte uniquement sur 4% des industries. Donc vous voyez, on peut avoir des objectifs très louables et savoir déjà qu'en termes de calendrier ou de procédure, on ne les atteindra jamais.
Alors nous étions au Royaume-Uni, on va partir maintenant en Allemagne. Là aussi, petit rappel, 357 000 km², plus de 82 millions donc aujourd'hui d'habitants. Que représente Nathalie Wendt, puisque vous êtes aussi donc correspondante en Allemagne depuis Berlin, l'écologie chez nos voisins allemands?
Ben en fait, pour les Allemands, c'est toujours un sujet très intéressant, même si, en fait, ce qui est assez surprenant, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a quand même des paradoxes dans le rapport des Allemands avec l'environnement. D'un côté, la politique gouvernementale, et puis de l'autre, la population qui est en général le plus loin que le gouvernement. Oui. Donc, parmi les paradoxes, je pense au nucléaire, mais pas simplement le nucléaire. En ce cas, si on pense aux énergies renouvelables, par exemple, l'énergie propre, l'Allemagne était un des champions en termes de production de panneaux solaires, d'éoliennes, etc. Mais c'est aussi le numéro un en termes de centrales à charbon et surtout au lignite qui est particulièrement pollueur et qui est la seule ressource dont dispose l'ex-RDA presque à l'infini. Ou bien encore autre contradiction, l'instauration l'an passé d'une plaquette automobile qui interdit l'accès de nombreux centres-villes dont Berlin et Cologne aux véhicules les plus polluants. Et d'autre part, le lobby automobile qui est tellement puissant qu'il est presque impossible d'instaurer des limitations notion de vitesse généralisée sur autoroute, ou bien encore le tri des déchets, qui est très bien développé dans les villes allemandes. Les Allemands ont trié avec amour du détail, plastique, papier, verre, etc.
Je ne sais pas combien vous avez de poubelles, mais c'est assez incroyable. Hein, donc,
oui, c'est assez incroyable. Enfin, devant chez moi, il y en a 4. mais j'ai pas compté les poubelles spéciales pour les piles qui se trouvent au supermarché, le verre qui se trouve dans des containers à part, et puis bien sûr tout ce qui est matériel électronique, etc., qu'il faut directement apporter à la déchetterie.
Et du côté de Berlin, comment on se déplace?
Alors à Berlin, c'est assez intéressant parce qu'on développe énormément le vélo. Bon, déjà, les Berlinois se déplacent forcément facilement en vélo, mais la municipalité développe là encore les vélos. Il existe déjà un parc de vélos public qui appartient à la Deutsche Bahn, la compagnie des transports en commun, enfin des chemins de fer allemands, qui est accessible avec une carte bancaire. Et à l'automne, on verra une nouvelle offre concurrente. Cette fois, c'est la compagnie des transports en commun, la BVG, qui va proposer un parc de vélos. Et cette fois-ci, ce qui est intéressant, ces vélos seront accessibles gratuitement à toute personne munie d'un ticket de métro. D'accord. Et pendant 30 minutes. Donc en fait, la BVG vise clairement la cible des personnes qui ont un trajet supérieur à 20 minutes à effectuer entre la station de métro et puis leur destination.
Mais c'est quand même tout à fait incitatif. Alors Nathalie, est-ce qu'aujourd'hui, pour ces Européennes, est-ce que l'environnement, l'écologie sont au cœur des programmes ou bien c'est à la marge? Comment ça se passe?
L'environnement, pas tellement. C'est vraiment la situation économique qui est qui est à l'heure actuelle l'enjeu principal des élections. En fait, les Européennes, cette année, c'est une élection assez secondaire en Allemagne, vu qu'au mois de septembre, il va y avoir les élections pour le renouvellement du Bundestag. Le nucléaire ne sera pas un enjeu de la campagne, mais en tout cas...
Il faut quand même rappeler que Angela Merkel était opposée à la fermeture des centrales allemandes qui avaient été décidées par le gouvernement Schröder.
Oui, c'est ça. En fait, le gouvernement Schröder a décidé la fermeture de toutes les centrales allemandes à l'horizon 2020. Angela Merkel n'était pas favorable à cette mesure. Comme elle a signé un accord de coalition avec les sociaux-démocrates, elle a été obligée d'avaler la couleuvre et de maintenir l'objectif donc de fermeture des centrales en 2020. Mais Merkel n'attend que une autre coalition et elle mise donc sur une coalition avec les libéraux, eux aussi favorables au maintien du nucléaire. Les 17 centrales allemandes aujourd'hui en activité produisent 26% de l'électricité consommée dans le pays.
Oui, donc un problème compliqué, solution compliquée une fois de plus. Merci à vous Nathalie Wendt. Gérard Onesta, vous connaissez cela par cœur.
Oui, c'est vrai que c'est le grand débat du moment. Est-ce qu'il faut d'abord sauver l'économie ou d'abord sauver la planète? Je pense que c'est assez idiot de le présenter comme ça parce qu'on ne sauvera l'un qu'en sauvant l'autre en même temps. Il faut peut-être même profiter de la crise pour réorienter l'économie, non pas la relancer dans la même direction parce que les matières premières, l'énergie dans un monde qui est tout petit, qui s'appelle la planète Terre, on atteindra vite les limites. Et bien, si on la réoriente en pensant une économie différente, justement, où on consomme moins, on consomme mieux, on prend le temps de vivre, on mange mieux, on prend le temps de voir grandir ses enfants, on a une approche beaucoup plus apaisée, non pas dans la compétition et la prédation permanente, ça permettrait à la fois de repenser l'économie, notamment à travers des emplois non délocalisables, si l'on s'intéresse à la protection, par exemple, des bâtiments, les isolant davantage, ça c'est quelque chose qu'on ne fera pas au Laos, on le fera forcément chez soi. Et cette nouvelle économie-là permettrait à la fois de relancer, mais de manière intelligente, en réorientant l'économie, et en même temps de sauver la planète.
Oui, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'effectivement, on pense à l'épanouissement humain plutôt que l'action dirigée par le profit, ce qui a quand même été le cas depuis pas mal de temps, en pensant aussi à des décroissances sélectives. Quoi. Il y a ce genre de choses.
Et les chiffres sont alarmants. Il y a moins d'un mois, le commissaire européen à l'environnement, M. Dimas, faisait le compte-rendu à Athènes du bilan de ce défi que s'était lancé l'Europe, c'est-à-dire de stabiliser l'érosion de la diversité à l'horizon 2010. 2010, c'est dans 6 mois, et le constat est alarmant. 40 à 70% des espèces d'oiseaux, 50 à 85% de leurs habitats sont dans une situation de conservation dite critique. Donc on se rend bien compte que la biodiversité, c'est quelque chose qui est important. La moitié des espèces vivantes ont disparu depuis la période industrielle, et elle continue à être rognée à la vitesse de 1% par an. Alors, tant qu'on ne prendra pas ça en compte comme variable dans notre activité économique, on ira dans le mur.
Et c'est pour ça, effectivement, qu'on est en train de, on commence à repenser ce fameux PIB, puisque évidemment, PIB vert, ça n'existe pas encore. Mais là, bon, il y a des économistes qui planchent dessus, mais c'est évidemment important de nous rappeler que cette perte de capital naturel est aussi importante que le changement climatique, hein, qui est un peu la superstar. Mais c'est vrai que tout ceci va ensemble, hein, Gérard Onesta.
Absolument. L'un nourrit l'autre. Hein. Oui. Ce qui est assez alarmant, c'est que la Commission européenne a fait un pointage. 75% des habitants de l'Europe ne savent, n'ont aucune idée de ce que veut dire le mot biodiversité. Donc, heureusement qu'à CO2 alors, mon amour, on contribue à relever le niveau.
Oui, alors on essaye, mais c'est, non, mais c'est vrai que le mot n'est pas bon, soyons très clairs. Mmh. C'est du capital naturel, il faut qu'on trouve un peu autre chose. Mmh. Biodiversité, je reconnais que ce n'est pas tellement sexy. On vous retrouve dans quelques instants, puis on va rejoindre quelqu'un de vos collègues qui est Claude Turmes du côté du Luxembourg.
L'environnement, c'est comme tout. Il faut commencer par des bonnes intentions. Les mettre en pratique, ça, c'est autre chose. Hein.
CO2 en amour, Denis Chessy.
Si je les livres à fermer, c'est que mon cœur est ailleurs. Ailleurs. Non, je ne veux pas m'exprimer. Tous mes sujets sont ailleurs. Ailleurs. Regarde-moi dans les yeux. Tu verras le reflet de l'or que je ne suis pas. Plutôt que de me fixer, décolle-toi sur l'oreille. Une histoire qui s'achève sur un grand champ de colza. C'est un choix. Regarde-moi dans les yeux, tu verras le reflet. C'est pour respecter la voix de mes pas. Oserais dû partir seul dans cette campagne infinie. Je fuis. Regarde-moi dans les yeux, tu verras le reflet.
Ah, ça tourne bien, ça aussi. L'homme que je ne suis pas, c'est Samy de Coster, choisi par notre programmatrice Emmanuelle Chupin. Allez, un petit tour maintenant au Luxembourg. On va rejoindre un autre député européen. Bonjour, Claude Turmes.
Bonjour.
Vous êtes, on va dire, le monsieur énergie renouvelable de ce Parlement de Strasbourg. Alors, vous avez quand même un certain recul. Et puis, bah, vous nous observez, vous, depuis votre territoire. Alors, petit pour le Luxembourg, mais très vaste, évidemment, si on parle de l'Europe. Comment vous voyez cette France évoluer, parce qu'on a quand même mis du temps pour nous inscrire dans les fameux 20% d'énergie renouvelable en 2020.
Oui, en fait, la France accuse un énorme retard industriel en matière d'énergie renouvelable par rapport à l'Allemagne, le Danemark, l'Espagne, l'Autriche. Et donc, il est grand temps que, peut-être avec la pression qui vient de l'Europe, la France s'y mette. D'un autre côté, au niveau volume de production possible d'énergie renouvelable, classer le pays numéro 1 en Europe. Parce que la France est très ensoleillée. La France a un secteur agricole assez développé. Donc, pour le biogaz, c'est bon. La France a du bois. La France a des côtes et même sur terre de l'éolien et des énergies de la mer. Donc la France pourrait être le pays par excellence au niveau renouvelable. Mais malheureusement, cet essor industriel que d'autres ont pris a été bloqué par cette politique du tout nucléaire qui est, vu de l'extérieur, un choix qui n'est pas très rationnel.
On a été victime aussi quand même d'une sacrée centralisation parce que, rappelons-le, on a quand même été assez en avance sur le solaire, par exemple, et sur l'éolien. Si on va du côté de Font-Romeu, dans les Pyrénées-Orientales, à une époque, on était quand même en avance.
Oui, mais c'est ça qui est encore presque plus étonnant, c'est qu'à Font-Romeu, il y avait la technologie qui a été aujourd'hui récupérée en fait par les Allemands et les Espagnols sur ces panneaux à très grande envergure de miroirs qui produisent de l'énergie à partir de l'énergie solaire. Et donc la France était à la tête à un certain moment, mais à négliger. Et sur l'éolien, la France avait, début des années 80, avait certains opérateurs qui auraient pu être parmi les tout grands de la branche, comme aujourd'hui Gamesa, l'espagnol, ou Vestas, le danois, et Nercon, l'allemand.
Alors chez nous, c'est vrai qu'on s'empaille merveilleusement sur l'éolien, c'est-à-dire qu'on va vous dire c'est trop cher et c'est trop subventionné.
Non, mais ça, c'est un faux procès qu'on fait aux énergies renouvelables. On a des études très solides qui nous montrent quand il y a du vent en Espagne ou quand il y a du vent en Allemagne, les prix à la bourse de l'électricité diminuent. Et pour la seule Allemagne, le bénéfice pour la société allemande et notamment pour les gros industriels allemands, elle est de 2-3 fois supérieure aux subventions ou plutôt aux garanties d'achat que l'Allemagne donne. Et puis, dans un moment de crise aiguë avec des pertes d'emplois, il ne faut pas se leurrer, les énergies décentralisées comme les énergies renouvelables créent beaucoup, beaucoup plus d'emplois que les énergies centralisées comme le nucléaire ou le charbon.
Est-ce que vous craignez ou non que l'on arrive un jour à l'écologie, on va dire, plus coercitive, de la même manière qu'en France, donc, on a mis des radars pour faire baisser la vitesse et que l'on aura des espèces de radars écologiques parce que nous sommes justement dans un monde qui est fini, parce que nos modes de production et de consommation nous emmènent dans le mur si on continue à cette vitesse-là. Est-ce que vous craignez cela ou bien est-ce que vous pensez effectivement qu'on va pouvoir se réguler peut-être plus intelligemment ?
Cette question, elle reste ouverte. Je crois que ça dépend un peu de ce qu'on va réussir à faire pendant les 5 à 8 années à venir. Aujourd'hui, les technologies sont là. Ce n'est pas une question de finance, c'est une question de volonté politique dans les couches dirigeantes, mais aussi dans les majorités de la société. Et donc, il faut déjà que nous mettons en place toutes les technologies dont nous disposons. Et puis, derrière, il faut construire une nouvelle approche par rapport à un mode de vie. Mais cette approche-là, j'espère qu'on pourra la construire du terroir par des initiatives intelligentes de communication, des associations qui vont promouvoir un style de vie qui serait à la fois plus sain, mieux pour la planète et en même temps qui améliorerait notre bien-être parce qu'il réduirait le stress.
Quels sont les arguments que vous employez pour bien faire comprendre que ce 21e siècle de toute façon sera écologique et pour que ce ne soit pas une régression, mais dans une société de toute façon qui sera plus sobre, pour donner envie. Et c'est parfois un peu ce qui manque, si vous voulez, c'est ça, on est des êtres humains, donc on a besoin d'envie. Qu'est-ce qui porte pour cela et peut-être aussi en direction des jeunes générations qui sont peut-être plus réceptives ?
Mais je crois que c'est surtout dans les grandes villes qu'on peut nettement améliorer la qualité de vie, avoir moins de voitures dans les rues, plus d'offres de vélos, de transports publics, habiter dans une maison qui profite beaucoup mieux du soleil. Tout ça, c'est des gains. Et bien sûr, l'autre gain, c'est le rééquilibrage entre les gains de la productivité de travail, de productivité dans l'industrie et mieux le redistribuer, par exemple, aussi dans des diminutions du temps de travail. Je crois que l'écologie et le social vont être alliés et doivent être alliés parce que c'est seulement comme ça qu'on pourra construire un modèle de bien-être dans lequel la majorité de la population va se retrouver.
Merci à vous, Claude Turmes, donc collègue de Gérard Onesta. Petite réaction aussi de votre part ?
Oui, je trouve que Claude est bien modeste. Il pourrait dire que grâce à, grâce à son œuvre, c'est l'Europe maintenant qui donne le tempo justement aux énergies renouvelables. Parce que si on ne fixe pas des objectifs, si on ne dégage pas des moyens en termes de recherche, on ne va pas loin. Et là, c'est l'Europe qui a mis un petit peu la main au porte-monnaie, merci à Claude. Et c'est souvent l'Europe qui permet de tirer le reste de la planète vers le haut. Je vais vous donner un exemple. Le règlement REACH, qu'est-ce que c'est que ce machin-là? C'est un règlement qui est là pour mettre un petit peu sous contrôle les 100 000 substances toxiques qui sont autour de nous. À l'heure où je vous parle, là, sur la moquette que j'ai sous les pieds au studio du MOVE, les peintures sur le mur, je suis entouré de 100 000 substances dont on ne savait rien avant que l'Europe ne s'en mêle et a décidé de changer complètement la logique. Jusqu'à maintenant, vous, le pauvre citoyen, quand vous étiez pollué, quand vous vous trouviez avec un cancer, vous deviez trouver quelle était la molécule qui, il y a 20 ans, vous avez fait ce désastre-là. Et, tandis que maintenant, c'est la charge de la preuve est totalement inversée. Ce n'est plus à vous le polluer avec vos petits moyens de trouver qui vous a fait ça. C'est à l'industriel de prouver l'innocuité de son produit. Puis il ne décide pas seul. Il le décide à travers une agence européenne qui est basée à Helsinki, l'agence REACH. Et là où ça devient intéressant, c'est que c'est pour les substances qui sont fabriquées sur le sol de l'Union européenne. On va nous dire, mais alors, on n'a qu'à délocaliser, on ira polluer ailleurs. Non, non. C'est valable également pour les substances qui sont importées dans l'Union européenne. Et comme l'Union européenne est la première puissance économique au monde, on l'oublie souvent, eh bien, à cause de ça, toutes les industries chimiques ont été obligées d'adopter ce règlement protecteur. Et moi, quand j'étais au Brésil il y a quelques mois de ça, j'ai rencontré des gens qui remerciaient l'Europe. Ils disaient, monsieur Nesta, vous ne vous rendez pas compte, grâce à ce règlement, on nous a enfin mis dans l'usine le filtre sur la cheminée qu'on n'aurait jamais eu. Donc c'est l'Europe qui tire petit à petit toute l'humanité vers le haut au niveau environnemental.
Alors c'est vrai qu'il y a un calendrier pour ce programme REACH, effectivement, pour que l'industrie chimique est quand même une des plus puissantes, on le sait. Donc il y a eu vraiment aussi là un accord entre la France et l'Allemagne, hein, qui sont les deux principaux producteurs en Europe, prennent son temps, on va dire, mais évidemment que c'est un progrès tout à fait fondamental.
Alors c'est vrai qu'ils ont un petit peu râlé parce qu'ils ont calculé que ça leur coûtait 0,05% de leur chiffre d'affaires, c'est-à-dire entre 2 et 5 milliards. Mais sur la même période, chiffre de la Commission, c'est pas les écologistes qui ont sorti ces chiffres, sur la même période, cela générera 50 milliards d'économies sur le budget de la santé publique et 95 milliards d'euros d'économies sur l'impact environnemental. Donc on voit que c'est gagnant pour tout le monde. Et si on donne une petite partie de ces sommes économiques à l'industrie justement pour qu'elle fasse son aggiornamento, c'est-à-dire qu'elle modifie complètement ses procédés, tout le monde est gagnant, l'emploi, la santé, la planète.
Alors Gérard Renesta, vous n'êtes pas loin de la place du Capitole, si vous vous retournez, vous voyez pratiquement les Pyrénées, derrière les Pyrénées, nous avons l'Espagne, 505 000 km², près de 41 millions d'habitants, et nous avons notre correspondant Pierre Quérolle. Bonjour Pierre.
Oui, bonjour Denis.
Alors Pierre, cet environnement en Espagne, on va dire en gros à quoi ça ressemble et puis quels sont les points, soit les points forts ou les points de crispation?
Écoutez, ce que je peux vous dire, c'est qu'en particulier en matière d'éoliennes, ils sont très très forts, très avancés. Oui. On peut dire quand même que c'est le deuxième producteur en Europe d'énergie éolienne après l'Allemagne, ou même à égalité avec l'Allemagne, maintenant dit-on ici fièrement à Madrid. Si vous voulez, ils ont en matière d'éolienne un niveau comparable à celui des États-Unis d'Amérique, avec évidemment un territoire sensiblement plus petit. Alors, si vous voulez, dans les périodes de grand vent, avec leurs éoliennes, ils arrivent à fournir quand même 40% de l'électricité dont ils ont besoin. Mmh. Ils font une moyenne par an, si vous voulez, de 15% de leur nécessité en électricité grâce aux éoliennes. C'est surtout la Castille, vous savez, la province du centre du pays qui est très plate, qui permet ce chiffre, devant la Galice et l'Andalousie. Et puis, il y a aussi, évidemment, les panneaux solaires, car s'il y a beaucoup de vent en Espagne, il y a aussi beaucoup de soleil, comme chacun sait. Et là, ils ont une bonne production, sans doute inférieure, sensiblement inférieure même que les éoliennes, mais ils ont quand même, grâce aux panneaux solaires, de bons résultats. Donc, si vous voulez, c'est un pays qui est vraiment très développé en matière d'écologie. Et là, maintenant, la dernière chose que nous venons d'apprendre, là, il y a quelques jours, c'est qu'ils se lancent dans l'énergie éolienne marine. Oui. Vous savez, c'est pas très facile de mettre des éoliennes en mer parce que vous avez plusieurs lobbies. Vous avez les lobbies du tourisme et puis les lobbies de la pêche.
Et les pêcheurs, bien sûr, ce qu'on appelle donc les hydroliennes. Donc, il faut imaginer effectivement des éoliennes à l'envers. Et donc, on joue sur les courants qui font tourner ces grandes pales.
Voilà, ben vous êtes beaucoup mieux informé que moi. Ce dont je suis sûr, en tout cas, c'est qu'ils ont publié une carte et qu'ils sont arrivés donc à un accord avec ces différents lobbies dont on parlait. Donc, l'Espagne, oui. Pour ce qui concerne l'Europe, est très avancée et ils en sont fiers, je crois qu'ils ont raison.
Alors Pierre, dans notre grande série « Quand le bâtiment va, tout va », on sait évidemment qu'en Espagne, ça a construit absolument dans tous les sens, enfin beaucoup aussi sur les côtes. Où est-ce que l'on en est aujourd'hui? Est-ce que l'on va bâtir un petit peu plus écologique? Qu'est-ce que vous voyez?
Alors justement, Allemands. La semaine dernière, le 13 mai, dans son discours devant le Parlement, son discours sur l'état de l'Union, le président du gouvernement, Zapatero, le socialiste Zapatero, a lancé une idée qui est une idée tout à fait intéressante. Il a dit qu'il en avait assez de voir que l'industrie espagnole était basée, que l'économie espagnole, pardon, était basée sur la brique, sur le béton, sur la construction. On a vu ce que ça a donné là récemment à la suite de l'explosion de la bulle immobilière. Ce pays est en pleine récession, ça ne va pas du tout. Donc Zapatero a dit, maintenant il va falloir qu'on trouve de nouveaux modèles de production. Et alors parmi ces modèles de production, il a lancé un modèle vert, un modèle écolo si j'ose dire, avec la création d'un fonds de 20 milliards d'euros pour les projets innovants. Et ça, c'est très intéressant. Donc, essayer de trouver des substituts au béton et les trouver donc dans des énergies renouvelables.
Est-ce que les Espagnols, avec une population donc qui est jeune, est quand même globalement sensibilisée à l'environnement ou bien simplement on s'intéresse qu'aux nouveaux matériaux, qu'aux énergies renouvelables dont vous nous avez parlé ou bien est-ce que c'est quand même un peu dans la culture ?
Écoutez, si l'exemple qu'on peut donner, c'est celui des poubelles que l'on trie, les déchets que l'on trie, on ne peut pas dire que les Espagnols soient très enclins à préserver la planète. Car tous les matins, moi, quand je trie régulièrement mes bouteilles de plastique, mes bouteilles en verre, etc.,
c'est bien fait.
Je peux vous dire que les jeunes Espagnols, ils ne le font pas, ils mélangent tout, vraiment. Mmh. Alors, en effet, ils sont très intéressés par les éoliennes, par le gadget, un peu, si vous voulez, quoi. Mais la vie, dans la vie quotidienne, on n'a pas vraiment le sentiment, Denis, que les jeunes ont beaucoup le sentiment vert.
Et les corridas écologiques, vous n'avez pas d'informations là-dessus, non, ça pose.
Non, il paraît que les banderies ne seront plus en plastique.
Ah, ben voilà, c'est ça. Mais écoutez, un grand merci, Pierre, et puis à très bientôt.
Merci, Denis.
Au revoir.
Au revoir.
Voilà. Bon, ne m'écrivez pas pour les corridas écologiques, c'est pas la peine. Gérard Onesta, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que des personnes qui, entre guillemets, étaient des ennemis il y a 25 ans, deviennent aujourd'hui des alliés. Un exemple, s'il vous plaît.
Oui, mon pire ennemi, il y a 25 ans, quand j'ai commencé à militer pour l'environnement, c'était l'assureur. L'assureur qui nous disait, mais vous êtes irresponsable au niveau européen, si on vous écoutait, les écologistes, il faudrait assurer l'amiante, alors que c'est un produit en vente libre, ce qui était vrai à l'époque. Le nitrate d'ammonium n'explosera jamais à ZF à Toulouse, ne parlons pas des problèmes des navires qui n'avaient pas de double coque, Tchernobyl n'était pas encore passé par là, etc. Mon meilleur allié, 25 ans après, c'est l'assureur qui en a assez de payer à milliards d'euros le cyclone Katrina ou la tempête du siècle qui arrive tous les matins.
D'ailleurs, donc, on va rappeler que Nicolas Stern, dans son rapport, hein, donc Grand Argentier britannique et aussi donc mondial, s'est appuyé sur donc, les données des réassureurs.
Exactement. On sait maintenant que le coût de la non-intervention environnementale est absolument dramatique. Et souvent, on oppose... J'ai écouté tout à l'heure dans votre reportage, on disait, est-ce qu'il est vraiment raisonnable de mettre quelques milliers de pylônes pour faire de l'éolien ? Personne ne se pose la question. Nous avons des millions de pylônes pour transporter l'énergie nucléaire. Donc on voit bien que quand on veut, on peut.
Alors pourquoi l'Europe n'a pas en fait d'action, je dirais, décentralisée en matière d'environnement ?
Ah, ça c'est parce que les États membres n'en veulent surtout pas, cher ami. On dit qu'il y a beaucoup de fonctionnaires européens, ils ne sont que 40 000 pour gérer 1,5 milliard de citoyens européens, c'est-à-dire ils sont moins nombreux que le nombre de fonctionnaires pour gérer la seule ville de Paris. Et ils sont confinés à Bruxelles. L'État français, pas plus que les autres États, ne veulent surtout une administration qui viendrait sur le terrain télescoper leur pensée politique nationale. Moi, je rêverais d'avoir au bout de ma rue une administration communautaire européenne qui viennent expliquer justement ce qu'est un réseau Natura 2000. C'est pas une réserve d'Indiens, on peut continuer à y chasser, y pêcher, à y construire, mais simplement on le fait de manière raisonnable et en plus avec de l'aide européenne. La désinformation est très très commode quand Bruxelles est cantonnée dans ses murs et que quand ça marche pas, on dit c'est la faute de cette garce de Bruxelles qui ne comprend rien. Et quand tout marche bien, on dit bien évidemment c'est contre Bruxelles qu'on l'a construit. Alors que tout ça, vous savez, l'Europe ce n'est ni plus ni moins que l'addition des décisions nationales.
Alors des gens qui sont un petit peu en avance, ce sont les Suédois, 450 000 km², 9 millions d'habitants. Et on va rejoindre Jean-Paul Pouron. Jean-Paul, bonjour.
Bonjour Denis.
Alors la Suède, il faut quand même le dire, ils ont quand même 40 ans à peu près d'écologie, de sensibilité au développement durable dans les jambes.
Hein. Ah oui, tout à fait. Ça a commencé à la fin des années 60, quand les politiques suédois ont développé une espèce de conscience écologiste. Hein. Des milliers de lacs sont pollués par les pluies acides et l'épandage d'engrais. La Baltique est une véritable poubelle. Les papeteries suédoises et finlandaises rejettent leurs eaux de process, ont blanchi encore le papier au chlore à cette époque. Les pays riverains de l'Est, pays baltes, Pologne, Allemagne de l'Est, etc., rejettent leurs eaux usées, souvent non épurées, dans cette mer semi-fermée et extrêmement sensible. Donc les rejets industriels de ces pays contribuent ainsi à la pollution et il faut faire quelque chose. Les Suédois savent bien qu'ils ne vont pas y arriver tout seuls. Alors ils lancent en 68 l'idée d'une conférence internationale sur l'environnement. Elle aura lieu à Stockholm en 72 et on peut dire que l'esprit du compromis de Stockholm en matière environnementale eh bien, est né à ce moment-là.
Alors après, évidemment, ils s'engouffrent dans la niche de l'écotechnologie et puis il faut dire que Kyoto leur a donné parfaitement raison parce que ces gens-là ont décidé de décarboniser véritablement leur pays.
Oui, tout à fait. Certaines municipalités comme Växjö, au sud-est du Royaume, décident de devenir à ce moment-là des villes vertes. Et on constate aussi, comme juste à ce moment-là, c'est certes timide au départ, mais une espèce d'éco-industrie technologique hein, qu'on ne connaît pas bien encore, mais qui se développera de manière marquée à la fin des années 90. Et puis dans l'intervalle aussi, hein, l'écologie devient un réflexe en Suède. On le constate dans les changements de comportement. Le message politique est passé et désormais bien ancré dans la population. Et ce comportement citoyen est le fruit d'un enseignement hein, qui démarre à la maternelle et qui se poursuit dans le primaire et jusqu'au lycée. Recyclage et respect de l'environnement eh bien, sont deux principes que les moins de 35 ans appliquent aujourd'hui autant que faire se peut.
Oui, parce que vraiment, au plus haut niveau, on sent bien les dirigeants qui sont impliqués, donc après, ça redescend. Et alors, il y a aussi la politique fiscale qui est assez généreuse pour les énergies renouvelables. Qu'est-ce que l'on a fait, Jean-Paul ?
Eh bien là, à ce moment-là, quand en 2006, le gouvernement suédois décide de s'affranchir hein, des énergies fossiles à l'horizon 2020, il faut bien mettre quelque chose en place et il faut trouver donc des solutions de rechange, mais aussi il faut avoir de l'argent. Et à ce moment-là, l'État décide de libérer de l'argent, beaucoup d'argent, 0,5% du budget de la Suède, qui représente 4,5 milliards de couronnes suédoises, c'est-à-dire environ 400 millions d'euros, et qui sont redistribués aux communes. Et là, on assiste à des partenariats privés-publics qui deviennent très, très intéressants et des choses extrêmement astucieuses hein, qui sont construites comme ça dans les communes et qui permettent aux communes de véritablement lancer la bataille contre le carbone. Quoi.
Et alors, ça va très loin parce que Stockholm va récupérer aussi la chaleur humaine hein, dans les gares pour se chauffer donc, en partie. Donc ça aussi, c'est tout à fait novateur. Bon, mais on a aussi donc, la Suède qui va prendre au 1er juillet la présidence tournante européenne. Et là, ça va un peu changer de la Tchéquie parce qu'ils veulent aller à fond sur le climat.
Et ils comptent pousser la communauté européenne à prendre des mesures encore plus drastiques concernant les émissions de dioxyde de carbone. Hein. Et la Suède elle-même veut s'imposer une diminution de plus de 40%. Alors, en moment de crise, on peut se demander si vraiment c'est le véritable moment de commencer une telle campagne. Et la Suède estime que oui, c'est le moment quand même. Faut pas que la crise empêche le climat de continuer à devenir meilleur.
Merci à vous, Jean-Paul Pourron. Alors, Gérard Renesta, vous connaissez, enfin, pas forcément toujours tous les 27 pays, évidemment, par cœur, mais quand même, il y a un certain nombre d'espoirs. Bon, la Suède est sûrement en avance, le Danemark sur certaines choses, bon, pas forcément sur d'autres, mais il y a quand même de la belle envie derrière tout ça.
Oui, de toute façon, on n'a pas le choix. Si on veut vraiment régler les macro-crises que l'on doit affronter, qu'elles soient financières, environnementales, la biodiversité, le climat, la famine et que sais-je, il faut des macro-outils au minimum de taille continentale. On sait très bien que c'est avec l'outil européen qu'on réglera tout ça. Votre interlocuteur suédois vient de parler de Copenhague, le grand rendez-vous de la fin de l'année. Le climat, on le sauve à Copenhague ou on ne le sauve pas. Et c'est au niveau européen que ça se décidera. Alors je sais que beaucoup de gens disent que l'Europe ne les intéresse pas, mais il faut qu'ils sachent que l'Europe s'intéresse à eux. Alors que l'Europe telle qu'elle fonctionne ne leur plaise pas, on peut l'entendre, mais qu'ils la changent. Pour cela, ils ont un outil formidable, ça s'appelle le bulletin de vote.
Et voilà, c'est ça. Non, parce qu'en fait, non, mais prenons la chose à l'inverse. Si on ne va pas voter, qu'est-ce que l'on risque donc le 7 juin ?
Ce que l'on risque, c'est que l'on continue à parler de l'Europe, de l'environnement, du social, dans les discours. Les discours, vous savez, ça ne coûte pas grand-chose. Mais si on veut le mettre un petit peu concrètement dans les politiques, dans les programmes, dans les calendriers, dans les budgets, choisissez bien, choisissez européen.
Alors, préserver et partager la paix, c'est quand même la première vertu de l'Europe. Hein. Ça a été construit au départ, évidemment, pour cela.
Ça nous renvoie à la comparaison Napoléon le Petit et Schumann le Grand tout à l'heure.
C'était ça, voilà, absolument. Et derrière tout ça, c'est des problèmes environnementaux, c'est aussi des problèmes démocratiques. Donc, on a intérêt vraiment à soigner cet environnement et cette écologie, parce que sinon, ça peut partir un peu n'importe comment. Hein.
Quand j'offre le coffret protocolaire au chef d'État en fin de repas protocolaire, on a trois médailles. Une médaille avec Zeus en train d'enlever la nymphe Europe, la deuxième médaille, c'est Charlemagne, la troisième, c'est Schumann. Eh bien, c'est un petit peu toute l'histoire de l'Europe. Les dieux ont essayé de faire l'Europe, ils ont échoué. Les rois, les empereurs, les dictateurs ont essayé de faire l'Europe, ils ont échoué. Finalement, ce sont les citoyens qui sont en train de réussir. Donc peut-être que les citoyens doivent s'en rappeler en bougeant le 7 juin.
Juste avant de vous quitter, Gérard Onesta, aujourd'hui, on est un peu sur des corrections de trajectoire, mais le véritable changement de cap et de société, vous sentez que c'est en train de mûrir ?
Il manque encore un dernier coup de pouce à donner, parce que c'est vrai qu'il suffit que l'actualité chasse l'actualité. On parlait beaucoup de climat il y a un an, et maintenant on l'a un petit peu oublié, parce qu'on parle de crise. La grippe mexicaine nous semble beaucoup plus importante que la perte de la biodiversité. Et pourtant, je peux vous assurer que dans l'histoire humaine, l'une fera sens et l'autre sera anecdotique, malheureusement. Donc il faut toujours être très, très, très vigilant. Mais le seul niveau vraiment pertinent, ce n'est plus au niveau des États-nations, c'est au niveau transnational, donc au minimum forcément européen.
Merci à vous Gérard Onesta, merci pour votre présence, d'avoir remis tout cela un petit peu en perspective, et puis merci à vous qui nous avez écoutés. Allons-y comme à Cana dans les merci, bien sûr, à Serge Vigui et à Guillaume Lacroux, aujourd'hui à la technique, à Claire-Sophie Collet, notre assistante, à Jean-Christophe Pinaza, mon camarade d'écriture, et Caroline Lebossé qui réalisait cette émission. Je n'oublierai pas Emmanuel Chupin, notre programmatrice, et notre cyberdocumentaliste. Vous pouvez vraiment faire un saut là aussi sur le site de CO2 Mon Amour. Anne Gouzon, donc, qui nourrit les sites de CO2.